Je vais accompagner mes propos avec un petit montage PowerPoint pour que vous puissiez suivre et peut-être que votre attention soit plus soutenue. Puis je les commenterai parce que, comme c'est enregistré, je ne voudrais pas que les futurs auditeurs de ce temps soient perdus en se disant « mais nous, on n'a pas les dessins ». Alors je les commenterai un petit peu pour ceux qui sont à venir. J'aimerais ce matin partager avec vous un texte que je porte en moi. Il y a des prédications comme ça, vous savez. On nous pose souvent la question, à Michel, à moi, ou au pasteur qui apporte une parole, mais comment ça vient, comment ça fonctionne. Ce texte-là, je le porte depuis plusieurs années en me disant par quelle bouche je peux le prendre, qu'est-ce que Dieu veut dire, à quoi ça peut servir à l'Église. Il y a des messages comme ça qui sont là, rangés dans un coin, et je dis, tiens, je vais aller le revoir, le revisiter, et j'attends que ce soit mûr. Et il y a des temps de gestation qui sont longs. Et ce texte-là se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, et il se trouve au chapitre 3, au verset 14. C'est Paul qui écrit aux Éphésiens, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Merci. » C'est un texte que je porte depuis, que je médite, que je réfléchis, et est venu le temps de la délivrance. Donc, soyons conscients qu'en tant qu'homme, la question de la délivrance est toute relative par rapport à ce que les femmes peuvent connaître au moment d'une naissance. Mais quand même, c'est un texte qui parle de quelque chose de profond, d'important, c'est la question de l'amour et de la place que nous avons dans nos cœurs et dans nos vies concernant l'amour que Dieu veut y déposer. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a beaucoup d'exégètes qui ont travaillé sur l'Épître aux Éphésiens, qui, comme de nombreux théologiens, notamment libéraux, que ce n'était pas forcément une lettre écrite par l'apôtre Paul. Ils ont argumenté sur le fait que le style est différent, le vocabulaire présente des écarts avec celui de Paul, voire ce qu'on appelle des apax, c'est-à-dire des mots qui ne figurent qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et pas ailleurs. Donc on se dit, oui, donc vous comprenez, ce ne serait peut-être pas de Paul, peut-être d'un auteur différent. Alors moi, je ne rentre pas dans ces débats. Si certains, j'ai même lu en préparant ce message, que certains trouvaient cette lettre lourde, redondante, moi, ma lecture au fil des décennies m'a en tout cas subjugué. C'est-à-dire que l'Épître aux Éphésiens, pour moi, c'est un des textes qui a le plus de souffle et qui parle à l'Église, aux croyants, de manière très concrète et de manière très profonde sur ce que nous avons à vivre et à laisser vivre en nous. Alors, j'avais à cœur de ce matin de partager ce chapitre 3, on pourrait souvent circonscrire la question de l'amour dans l'Écriture au chapitre 13 des Corinthiens. L'amour est ceci, l'amour n'est pas cela, l'amour est ceci. On l'a relu, enfin je l'ai relu lors d'une célébration de mariage il y a encore quelques semaines pour l'union de Marie-Océane et de Kevin. Et on va dire, oui, le plus beau texte sur l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Mais moi, même si ce texte fait une description de l'amour admirable, j'aime beaucoup ce texte de Éphésiens 3. Et j'ai beaucoup pensé à Michel, ici présent, en préparant mon message. Et j'espère que l'angle dans lequel je vais le présenter ne va pas trouver des réactions d'un professeur qui va dire « Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait exact. » J'en reparlerai avec lui après pour vérifier, je dirais, la justesse de mes propos. J'aime beaucoup ce texte d'Éphésiens parce que j'ai presque l'impression que, c'est pour ça que je parlais de Michel, c'est que Paul fait œuvre de pédagogie. Il dit, voilà, l'amour, autant dans 1 Corinthiens 13, il est l'auteur, il va parler de la valeur de l'amour, du contenu de l'amour. Là, il va utiliser, je dirais, une présentation schématique. Et notamment au titre que j'ai donné, c'est comprendre les dimensions de l'amour. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Je tiens d'ailleurs à préciser que dans ce texte-là, il y a des différences sur vos traductions. Vous devez peut-être avoir dans la version de votre Bible, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Je tiens à corriger le fait que dans le texte grec, il s'agit bien de connaître ou comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et ça a une importance, vous verrez dans mes propos, c'est que la profondeur vient en dernier. Alors, ce texte que nous avons lu nous pose en fait cette question toute simple, est-ce que nous savons aimer ? Alors, si notre réponse est hésitante, voire négative, qu'est-ce qui cloche dans notre manière d'aimer ? Moi, je dois avouer que j'ai appris à aimer du fait de ma vie, des circonstances très difficiles dans lesquelles j'ai vécu mon enfance. C'est vrai qu'aimer pour moi n'était pas un acte facile. Je me souviens d'un épisode où je suis l'aîné de 8 enfants, de 3 frères et 4 sœurs. Et j'étais tellement enfermé dans mon incapacité à aimer parce que c'était un choix que j'avais fait pour ne pas souffrir. J'avais vécu des choses tellement difficiles que j'ai dit, le plus sûr pour moi, c'est de ne pas aimer. Si je n'aime pas, je ne serai pas blessé. Et je me souviens d'un épisode dans ma jeunesse, quand j'avais à peu près 14 ans, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. L'amour, pour moi, c'était quelque chose dont je ne voulais surtout pas être tributaire. Et j'étais à la fenêtre de l'appartement où nous étions en famille. Mon petit frère était dans la rue. À un moment donné, il a traversé l'avenue qui était devant. Une voiture l'a heurté. Je n'ai pas bougé. Rien n'a frémi. Aucune émotion, aucun sentiment. Parce que j'avais décidé de ne pas aimer et de me protéger. À la suite de cela, il n'a pas eu de séquelles ni de blessures, mais j'ai été horrifié par ce que j'étais devenu. La bonne stratégie de ne pas aimer n'est pas efficace. Elle n'est pas inhérente à la nature de l'homme. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Mais il faut reconnaître aussi que le péché dans notre vie a altéré notre capacité dans notre rapport à l'amour. Le texte que nous avons lu commence par ce liminaire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, c'est-à-dire à cause de ce qui vient d'être dit, eh bien, je prie pour vous, Éphésiens. Alors, moi, je me pose toujours la question, et c'est un travail qu'on a fait souvent avec Hervé en son temps, c'est quand on a un petit mot comme ça, à cause de cela, mais alors, à cause de quoi ? À cause de quoi est-ce que Paul se met à prier pour les Éphésiens et leur parler de l'amour ? Eh bien, je remonte au-dessus dans le texte pour comprendre quelle est cette démarche. Quel est le commencement de cette démarche pour Paul vis-à-vis des Éphésiens, de les emmener plus loin dans leur compréhension de l'amour, tel qu'il doit habiter en eux, en nous, tel qu'il doit me conduire et peut-être révéler Christ au monde. Dans la pensée de Paul, la question et la place de l'amour dans notre vie résultent dans ce texte qui est juste avant celui que nous devons lire, d'une, logique cohérente par rapport à la volonté de Dieu. au plan qu'il a établi de toute éternité. Et Paul en explique le chaînage. J'ai fait la mécanique dans ma jeunesse comme formation professionnelle. On appelait ça le mode opératoire. Pour qu'il y ait une pièce, eh bien, on construit un mode opératoire. On va dire, on commence là, puis ensuite on fait ça, puis ensuite on fait cela, ensuite on prend, etc. Le mode opératoire. Eh bien, Paul procède de la même manière. Il dit, voilà, pour que l'amour soit dans votre vie, voilà quel sera le mode opératoire que vous aurez à suivre. Alors d'abord, il établit les fondements, les points de départ. Il dit d'abord, nous vivons à l'heure actuelle, il le dit au verset 8, nous vivons une phase nouvelle, je vais reprendre le texte, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce est d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On est dans une nouvelle phase de l'humanité. On a à transmettre les richesses de Christ. Nous vivons une nouvelle phase de l'histoire. Je dois annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu au monde. Waouh ! Annoncer les richesses incompréhensibles. Je dois aussi mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps en Dieu. C'est-à-dire, de toute éternité, il y a quelque chose qui était caché. Et là, maintenant, j'ai à le mettre en lumière. Vous savez quoi ? Ce n'est pas simplement le boulot de l'apôtre Paul, c'est aussi ce qui repose sur chacune de nos vies, notre appel à nous. J'ai à mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Hein ? Ça veut dire que vous avez et j'ai comme responsabilité le fait, c'est le verset 8, 9 qui est juste avant, à cause de cela, voilà pourquoi on a un ministère et une marche à faire concernant l'amour. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes doivent connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que souvent on dit oui, les dominations, on doit lutter contre, on doit combattre. Non, on doit d'abord leur faire connaître, parce que les dominations et les puissances, les autorités dans les lieux célestes, ne connaissent pas par elles-mêmes le mystère et la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous vous rendez compte ? On a une responsabilité. On dit oui, il faut combattre les puissances. Non, on doit, par ce que nous avons en nous, par l'amour de Christ en nous, leur faire connaître la sagesse de Dieu. On doit convoquer les puissances, les dominations, et dire, bon, on va vous expliquer ce qu'il en est de la sagesse de Dieu. Waouh ! Il y en a, là, je vois des visages qui disent, ah, je ne pensais pas que j'avais un boulot comme ça à faire, enseigner les puissances et les dominations et les autorités sur la sagesse. C'est écrit, hein ? Je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ce qui relève du dessein de Dieu mis à exécution par Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons à proclamer, à faire connaître à la fois au monde et aux autorités spirituelles le dessein de Dieu mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à cause de cela, je plie les genoux. Waouh ! Parce que certains disent, oui, quand on lit ce passage, juste avant le « à cause de cela », il y a « aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire ». Donc le « à cause de cela », ce sera en lien avec ça. Non, pas du tout. Il dit aux Éphésiens, oui, bien sûr, vous êtes un petit peu découragés, vous perdez courage à cause du fait que je suis en prison. Mais à cause de ce qu'il y a eu avant, ce que je vous ai dit avant, voilà ce pourquoi je prie pour vous. Ah. Est-ce que ce préliminaire qui conduit Paul a prié pour les Éphésiens, nous parle à nous en tant que responsabilité, appel, service. Il y a une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité. Je dois annoncer les richesses incompréhensibles de Dieu. Mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité. Maintenant, ça m'appartient. Ça t'appartient d'annoncer ce mystère-là parce que toi, il t'a été dévoilé. Waouh ! Ce qui relève du dessein de Dieu. J'ai entendu un mot ? C'est fort. Alors j'imaginais, je me disais, si c'était vrai, ce que vient de dire Paul, moi, J'ai tendance à le croire. J'imagine que si nous étions porteurs de ce message, de cette révélation apportée au monde et de ce que nous avons à vivre, cette semaine, sur Ouest France, il y aurait eu cette une-là. Ouest France, la Bretagne sous le choc des chrétiens de Kévin révèlent les richesses de Christ. Le mystère de Dieu enfin accessible pour tous. La fin d'une illusion. Vous n'avez pas vu Ouest France cette semaine ? Si ce que nous venons de dire est vrai, c'est cela que le monde devrait recevoir, être frappé de stupeur devant ce que l'Église porte, devant ce que les Églises ont à apporter. Alors, l'apôtre Paul dit, à cause de cela, à cause de ce qui est déposé en nous de révélation, de mission, le monde a changé au moment de la résurrection. Ah. Le « à cause de cela » ne concerne pas les tribulations de l'apôtre Paul au verset 13, mais de la grâce qui a été accordée à Paul et à nous-mêmes d'annoncer aux païens, au monde qui nous entoure, les richesses incompréhensibles de Christ, de mettre en lumière la dispensation du mystère. C'est-à-dire que nous, en proclamant le mystère du salut, nous instruisons les dominations et les autorités spirituelles dans les lieux célestes de ce que Dieu avait dans son cœur depuis toute éternité. Si l'Église d'aujourd'hui, comme Paul hier, était consciente de la grâce qui lui est accordée, alors c'est cette une-là qui devrait être le résultat de ce que nous disons et de ce que nous sommes. L'amour est le levier pour annoncer. On ne peut pas annoncer si on n'est pas saisi par l'amour de Dieu. Des versets 8 à 13 que nous avons, que je vous ai commenté, Paul explique aux chrétiens d'Éphèse quelle est la grâce qu'ils ont reçue, tout comme lui. Le fait qu'il leur écrive depuis une prison ne doit pas les décourager. Au contraire, son emprisonnement glorifie la foi des Éphésiens. Le « à cause de cela » ne fait pas référence aux tribulations, mais à tout ce qui précède. Et il donne une première clé pour nous équiper afin de remplir cette mission. « Je prie pour qu'il vous donne son esprit dans l'homme intérieur. » C'est pas, je dirais, une formulation. Je prie pour qu'il vous donne. Dieu est un Dieu qui donne. L'amour est un amour qui donne. Et c'est peut-être le problème de notre humanité et de l'altération par le péché, notre manière d'aimer. Je veux de l'amour que l'on me donne. Mais je ne suis pas prêt à avoir de l'amour qui se donne. Aimer est dans la nature de l'homme. Mais il s'agit d'amour, qu'il soit tourné vers Dieu ou vers l'autre, mari, femme, enfant, famille, proche, ami. C'est un amour qui n'est pas parfait. Il est, là aussi, altéré. Il est, comme toute notre personnalité, tous nos sentiments, nécessaire qu'il soit sanctifié, purifié, passé au crible de ce que l'Esprit-Saint veut changer en nous. Car il s'agit bien de cela dans l'esprit de Paul. Apprendre à aimer, et il l'exprime dans le sens de sa prière. Que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, à être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, point de suspension. Aimer bien est donc le fruit d'un travail sur soi-même. Mais il semble difficile de trouver des chemins de changement dans notre manière erronée d'aimer, sans laisser le Saint-Esprit déposer en nous l'essence de celui qui a aimé de la manière la plus parfaite qui soit, qui s'est donné totalement. D'ailleurs, Paul, au verset 16, utilise ce même verbe. « Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. » Notre Dieu est un Dieu qui nous aime et qui le fait en donnant. En se donnant, il nous invite à revisiter notre croyance sur notre capacité à aimer et à la purifier par son esprit. J'aimerais vous faire lire un texte, et là je remercie Érémy et Michel parce qu'ils m'ont fait découvrir il y a 40 ans un philosophe catholique qui a parlé de l'amour d'une manière admirable. Il disait ceci. on ne peut rendre aux hommes de plus mauvais services que de les inviter au bonheur sans leur enseigner en même temps qu'il n'est pas de bonheur authentique sans une part de victoire soi-même et de sacrifice. Ils ne se trompent pas lorsqu'ils attribuent leurs mots à la privation d'amour. Mais de quel amour ? Celui qu'ils reçoivent du prochain ou celui qu'ils éprouvent pour le prochain ? L'un et l'autre sont nécessaires au bonheur, mais le second plus encore que le premier, car l'âme est riche de ce qu'elle donne. De ce qu'elle donne. D'où vient alors que ceux qui se plaignent de manquer d'amour entendent toujours ce mot dans le sens de ne pas être assez aimé et jamais dans celui de ne pas aimer assez. François Mauriac a parlé jadis des mal-aimés, et le mot a fait fortune. Mais il n'y a qu'une façon de réduire les mal-aimés, et c'est de multiplier le nombre des bien-aimants. J'aime ce texte-là parce qu'il va dans le sens de l'esprit de l'apôtre Paul. Ce philosophe catholique a apporté vraiment une pensée différente, et je sais qu'on a lu, ils m'ont communiqué, Michel et Rémi, notamment un livre de Gustave Thibon, L'équilibre, l'harmonie, et puis L'ignorance étoilée, qui sont des livres vraiment d'une très très grande profondeur. Et là, Gustave Thibon dit que l'amour, quelque part, véritable, le bonheur qui est sous-jacent, authentique, ça ne se vit pas sans une part de victoire sur soi-même et de sacrifice. C'est-à-dire que aimer, c'est aussi se donner. C'est le sens dans lequel Jésus-Christ nous a aimés. Il n'a pas dit, vous savez, je vous aime. Il nous a dit, je vous aime et je me donne pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don fait partie de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans don de soi-même. Et c'est la leçon que Christ donne à tout un chacun. Alors, en lisant ce texte-là, et vraiment, je vous invite à le lire, à le mâcher, à le réfléchir. L'apôtre Paul, dans son texte aux Éphésiens, leur parle de l'architecture de l'amour. Il leur dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, je prie pour ça, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur et connaître l'amour. Et il y a une architecture géométrique. Paul utilise ici, et c'est là que je me méfie des réactions de Michel, une représentation géométrique propre à ce qu'on appelle aux représentations en trois dimensions. La largeur, la longueur et la hauteur. En fait, on veut calculer le volume d'un parallélépipède, la formule, c'est le volume est égal à la longueur, multiplié par la largeur, multiplié par la hauteur. C'est bon ? Oui ? Je vérifie. Je recommence. Pour savoir le volume d'un cube ou d'un cube ou d'un parallélépipède rectangle, eh bien, on multiplie la longueur, la largeur par la hauteur. Et vous avez le volume que vous avez à l'intérieur. Pour pouvoir augmenter le volume, il faut changer les dimensions, soit de la largeur, soit de la longueur, et soit de la hauteur. Et je dis bien la longueur, et non pas la profondeur. Vous verrez que ça pose un autre problème. Mais ces trois dimensions-là vous donnent... Prenez des notes, c'est la rentrée quand même. C'est jamais, ça peut passer dans un examen en fin de semestre. Paul nous parle de cela et il dit que cet amour qui surpasse toute connaissance est à notre disposition. C'est-à-dire que la connaissance humaine ne peut pas avoir une perception juste de ce qu'est l'amour de Christ. Ça dépasse la capacité de la connaissance de l'être humain. J'aime beaucoup certains auteurs, il y en a un, que j'ai oublié le nom, mais qui expliquait le fait qu'on s'inscrit dans une histoire avec un commencement, c'est le commencement de l'univers, et la fin, c'est notre mort. Ça, on peut arriver à comprendre cela, à la fois philosophiquement, scientifiquement, etc. Mais avant ce qu'on appelle le mur de Planck, c'est-à-dire 0, et là, vous avez 40 zéros, 41e, juste À partir de ce moment-là, on ne peut plus savoir ce qu'il y a derrière, parce que les outils qu'on a, notre intelligence ne peut pas les imaginer, et donc c'est l'inconnu. Et après notre mort, à part Lazare, qui peut-être pourrait, nous, si on le rencontre, nous dire un petit mot là-dessus, mais il n'y en a pas beaucoup qui peuvent nous parler de ce qu'il y a après. Notre intelligence est incapable de mesurer à la fois et de comprendre et d'expliquer l'amour de Dieu et l'amour de Christ. Et pourtant, il dit, pourtant, face à notre incapacité, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne peux pas comprendre, et pourtant, la plénitude de Dieu m'est destinée. Sans doute une manière de dire que le volume de l'amour de Christ est au-delà de toute imagination suffisant pour me remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Un peu comme si, vous imaginez cette scène, vous l'avez peut-être vécu pour certains, un peu comme si nous étions des enfants sur la plage, avec équipés d'un seau, vous savez, d'une pelle, et puis que notre père nous disait face à la mer, « Tu sais, tu peux remplir ton seau, il y a suffisamment d'eau pour toi et pour les autres. Tu peux t'approcher, remplir ton cœur, et ta vie de l'amour du Christ, il est incommensurable, il y en a assez pour toi !» Et puis nous, on est là avec notre seau. Oh, je vais juste en prendre un peu parce que je vais en laisser pour les autres. L'océan de l'amour de Christ est suffisamment grand pour remplir ta vie, ton cœur, jusqu'à toute la plénitude. Alors, il y avait un cantique que connaît bien Michel. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Est-ce que vous voyez la confrontation devant laquelle nous sommes face à l'océan de l'amour de Dieu, Dieu qui nous dit, c'est pour toi. Je veux remplir ta vie de cela. Alors, il s'agit de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Puisque le volume, on peut passer la slide suivante, vous voyez, le volume pour un cube, longueur par largeur par hauteur, V égale L plus, multiplié par L multiplié par hauteur. Et en fait, la question c'est quoi ces dimensions ? Là, c'est des mètres, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui définit le volume que j'accepte de rendre disponible à l'amour de Dieu. Et quand je vous expliquais mon expérience quand j'étais jeune, j'avais rétréci ce volume au maximum pour ne pas souffrir. Et il y a plein de raisons qui font que, à l'intérieur de moi, je limite le volume que je laisse ou que je veux rendre accessible par peur, par crainte, pour plein de raisons. Alors, la largeur. La largeur, c'est une notion que l'on retrouve quatre fois dans le Nouveau Testament. En grec, c'est « platos ». Et il y a 80 occurrences dans la Bible de la largeur. Et si vous cherchez, c'est très intéressant, souvent la largeur, ça s'explique à l'endroit où on va construire, notamment le tabernacle, le temple pour Dieu, etc. C'est-à-dire toute la place qu'on laisse à Dieu. Le tabernacle, il était mesuré au centimètre près. Le temple de Jérusalem, idem. C'est comment la largeur peut être quelque chose d'important. La largeur, c'est ce par quoi on va passer, par quoi on va rentrer. C'est ce qui va rendre accessible. Et je peux très bien, dans mon cœur et dans ma vie, estimer qu'il ne faut pas trop de largeur pour ne pas trop laisser passer et filtrer. Un peu comme les boîtes de nuit, vous savez. Vous avez vu les boîtes de nuit ? 5000 places à l'intérieur. Un cordon pour deux personnes à l'extérieur. On filtre. Est-ce que dans ma vie, je suis un petit peu comme ça ? Quelque part, je n'ai pas confiance et j'ai peur de la place que je vais donner à ce qui va rentrer. À la fois du Seigneur, à la fois des autres. Alors, je rétrécis ma largeur. Je suis du Havre. Je suis né au Havre. Enfin, je suis né à Marseille. Allez, l'OM. Non, pardon, excusez-moi. Je dis ça parce que hier, le FCL a perdu 4-1. Alors, dans ces journées-là, je suis Marseillais. Mais je suis né et j'ai grandi au Havre. Au Havre, je vais vous montrer quelque chose. Slide suivante. La maison la plus étroite du monde. Ça fait rêver une maison comme ça, non? Cette maison a été réalisée par le plasticien autrichien Erwin Würm au Havre. Et j'ai vu un reportage sur cette maison. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Vous avez un coin cuisine, une chambre, des toilettes, etc. Ah, Karine, tu ne veux pas échanger ta maison de bois contre une maison comme ça? Ça fait rêver, non? Ah, il dit oui en plus. C'est la maison la plus étroite, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Eh bien moi, vous savez, ça ne me fait pas rêver. Ça ne me fait pas rêver. The Narrow House montre qu'on peut imaginer un bâtiment qui soit totalement étroit et qui comporte tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et je vais vous dire, il y a parfois des vies chrétiennes qui ressemblent à cela. On s'est rétréci, on a limité. Et on est là, dans cette étroitesse, on se dit, j'ai tout ce qu'il me faut pour moi. Qui c'est qui vit dans une maison comme celle-ci et qui peut faire rentrer du monde chez soi, accueillir, recevoir, partager? Eh bien, il y a des vies chrétiennes qui sont de cette nature, dans l'étroitesse. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. » Élargissez-vous. J'ai envie de dire ce matin, élargissons-nous. Regardons ce que nous avons posé comme limite pour limiter l'accès. La longueur, et je parle bien de la longueur. Je vais vous montrer un autre bâtiment, vous le reconnaissez ? Gestel, c'est le château du Lin. Château du Lin, il est très, très sympa. C'est une maison qui, depuis les années 1800, ressemble à un petit château. Et au fil des propriétaires, ils ont arrangé, agrandi, etc. Et je sais que la petite maison qui est sur la route de Gestel a été construite par une propriétaire du château aux alentours des années 1860-70. Et quand on va le voir, on se dit « Waouh, c'est une belle bâtisse !» Et je suis allé avec une de mes petites filles pour le regarder et rentrer dedans. Et je lui ai dit « Mais... Et si on habitait dedans ? » Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ah ben non. Ben, je dis, pourquoi ? Pourquoi ça ne plaît pas ? Parce qu'en fait, sur le château du Lin, la rénovation a fait qu'on n'a gardé que la façade et que la longueur à l'intérieur est totalement vide et déserte. Il n'y a que la façade. Alors on me dirait, est-ce qu'on peut vivre dans une maison ? Est-ce qu'on peut aménager un intérieur ? Est-ce qu'il peut être rempli de quelque chose? Ben non, parce qu'il y a juste la façade. Quand on regarde, on se dit, waouh, ça c'est du château. Mais en dehors du mur que vous voyez, derrière, il n'y a rien. Et quelque part, lorsque l'apôtre Paul dit que vous connaissiez la largeur et la longueur, c'est que derrière la façade, il doit y avoir quelque chose de profond, quelque chose qui permette d'aménager, de recevoir, etc. Là, c'est du vide. Et j'ai envie de dire, est-ce que certains chrétiens, je ne vais pas dire nous, mais parfois nous travaillons plus sur la façade que sur l'existence de cette longueur, parce que c'est comme ça que c'est dit et en mathématiques et en géométrie et dans le texte de Paul, est-ce qu'il y a de la longueur derrière la façade? Est-ce qu'on met, on met du volume derrière pour pouvoir vivre l'amour demande à augmenter la capacité. Et puis, la particularité, lorsque dans le livre des chroniques, quelqu'un disait « Oh, le livre des chroniques, c'est dur à lire, hein. » Mais il y a des perles. Et ici, « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes. » Et en fait, la façade donne une apparence de ce qui est derrière. Mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Est-ce que nous construisons à l'intérieur du volume, du recul pour ? Vous savez, pour mettre ne serait-ce qu'un tableau, pour décorer votre intérieur, si vous n'avez que la façade, derrière, c'est mort. Mais qu'est-ce que je mets dans ma vie pour que l'amour prenne de la place, rende possible les choses. Et puis, la hauteur. La hauteur, voilà. Ça, c'est une maison qui a de la hauteur. Ah, je regardais ça, moi, je me faisais rêver il y a quelques années, je me disais, j'accrocherais bien une maison comme ça derrière mon vélo, parce que ça va derrière un vélo, ça. Et en fait, vous voyez, c'est une maison, elle a, bon, allez, 1,60 m de hauteur. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est que, quelque part, l'amour de Dieu doit augmenter en volume aussi en poussant, je dirais, les mètres vers le haut. C'est-à-dire que le haut, ça symbolise aussi la dimension spirituelle. Quand la Bible nous dit « élargissez l'espace de vos tentes », dans vos têtes, imaginez que vous achetez une canadienne, donc en général, allez, 1,60 m de piqué, et que vous disiez « ah, ça c'est chouette, j'ai quelque chose pour recevoir à la fois les choses de Dieu, mais aussi les hommes, les femmes qui vont passer, je vais élargir ». Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je garde le piquet, mais je vais prendre une toile de 20 mètres d'un côté, 20 mètres de l'autre côté du piquet, puis je vais mettre sur mon piquet, ça va élargir. C'est quoi la conséquence? Bah, c'est que même si le piquet tient, celui qui sera à côté du piquet, il a 1,60 m, celui qui est à côté, il a 1,40 m, et puis à 3 mètres, il commence déjà à se sentir un peu, et puis à 4 mètres... Le prochain est à genoux et plus tard, les autres sont couchés parce qu'ils ne peuvent pas se tenir debout. Il faut de la hauteur pour que l'amour de Dieu, je dirais quelque part, prenne du volume. Il ne faut pas simplement avoir, une grande largeur. Il ne s'agit pas non plus d'avoir de la profondeur. Il faut aussi qu'il y ait de la hauteur. Et Dieu veut que notre foi grandisse en hauteur. Qu'on appelle la hauteur sous plafond. Hein. Moi, ça, vous n'avez pas connu ça, peut-être, mais moi, en 1968, on était en famille d'accueil, nos parents nous ont repris avec eux dans une location. La location, c'était un grenier. On était 5 dans le grenier, 3 enfants et 2 adultes. C'était un grenier, mais les adultes ne pouvaient pas se croiser. Il fallait qu'il y en ait un qui se décale, qui se baisse pour que l'autre passe. Et on avait un grenier comme ça. C'est contraignant. Est-ce que notre amour, est-ce que l'amour de Christ en nous est de cette même contrainte, manque de hauteur? Cultiver la hauteur, faire grandir notre dimension spirituelle. Et puis enfin, on se dit, mais on a donc toutes les dimensions à travailler. Et l'apôtre Paul complique les choses. Et là, j'en appelle au professeur, il dit « Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Donc, quelle est la largeur, la longueur et la hauteur. Et la profondeur. Alors, c'est quoi cette histoire de profondeur? Parce que dans mon schéma de tout à l'heure, largeur, longueur, hauteur, et j'ai le volume. Mais il introduit quelque chose de nouveau qui est dépendant d'une notion spirituelle. C'est la profondeur. Le volume, il est contraint dans nos vies de manière très... des murs, comme on disait ma maman, on ne peut pas les repousser. Mais, de manière spirituelle, quand on veut laisser grandir, il y a à la fois nos limites qu'on peut repousser en laissant le Saint-Esprit, mettre le doigt sur ce qui me bloque, ce qui me retient, et il y a une autre données qui ne figurent pas en géométrie, c'est la profondeur de l'Esprit-Saint, la profondeur de Dieu. À savoir que ton cœur, mon être intérieur, en fait, il n'est pas simplement contraint par des mesures humaines et limitées, il introduit aussi, dès lors que j'accepte Dieu, de mettre de la profondeur dans ces trois dimensions-là, une profondeur que l'Esprit-Saint va pouvoir déplacer. C'est pour ça qu'un homme comme l'apôtre Paul, qui a certainement tué et massacré des chrétiens, mis en prison des femmes et des enfants, a vécu cette profondeur de la rencontre avec Christ qui a fait que ses limites intérieures ont été repoussées et qu'il a eu non seulement de la largeur, de la longueur, de la hauteur, mais que la profondeur que l'Esprit Saint pouvait apporter a fait qu'il a pu accueillir les Éphésiens et tous ceux qu'il a rencontrés. Alors je voulais juste dire que dans cette notion nouvelle d'un volume géométrique contraint par nos limites mentales, émotionnelles et autres, cette profondeur de l'Esprit Saint peut te donner la capacité de vivre quelque chose de neuf et de nouveau. Ce n'est pas possible de vivre cette profondeur de manière humaine à cause de la rigidité de notre cœur, de nos croyances, de nos peurs. Mais il y a à la fin de ce texte, je crois que j'ai dû le mettre, voilà, tu peux mettre la slide suivante. Le réel est apparence, comme disait André Malraux, et autre chose existe qui n'est pas apparence et ne s'appelle pas toujours Dieu. C'est-à-dire, quelque part, il y a au-delà du réel quelque chose. Et André Malraux le ressentait, le percevait en se disant, alors je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est... Mais il y a quelque chose qui va au-delà du réel et de mes limites que j'ai posées. Et le psaume dit, le psaume 51, « Si, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais-moi connaître la profondeur de ta pensée pour moi et que mes limites s'élargissent et que profondément je vive, Seigneur, la profondeur de ce que tu as prévu. » Et je pense qu'il doit y avoir une autre slide derrière. C'est la fin de ce passage. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » C'est-à-dire que si tu penses que tes limites sont des limites pour t'empêcher d'aller au-delà de ce que Dieu veut faire pour toi, je te dis que cette parole est vraie et que tu peux vivre bien au-delà de ce que tu imagines. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Seigneur, donne-nous d'entrer dans tes dimensions à toi. Que le volume de ton amour, le volume que nous te mettons à disposition en acceptant que tu sois Seigneur, que ce volume augmente, qu'il puisse véritablement te laisser davantage de place, non seulement pour toi, mais aussi pour nous, que nous soyons prêts à te laisser grandir, développer en nous cet amour qui vient de toi, que mon intelligence humaine, mes croyances ou mes peurs ne limitent pas ce que tu vas accomplir en moi, en nous, afin que toi, tu sois glorifié. Amen.